Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia Devitt.
Les 6 et 7 novembre 2008, les écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan, le Collège d'enseignement supérieur de l'armée de terre et le Centre de doctrine et d'emploi des forces soutenu par la Fondation Saint-Cyr, organisé à l'occasion du 90e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, un colloque international sur le thème « Ferdinand Foch, apprenez à penser ». La manifestation, placée sous le haut patronage du ministère de la Défense et de l'Académie française, visait à redécouvrir le maréchal Foch, homme de pensée et d'action, chef militaire et académicien, honoré du maréchalat par 3 pays différents. Les actes de ce colloque sont désormais disponibles aux éditions Soteca. Ils offrent une réflexion d'ensemble sur le rôle, la place et l'actualité du maréchal Foch. Ils permettent ainsi de mieux éclairer cette personnalité, souvent obscurcie par les éloges mémoriels ou par des critiques trop systématiques. Au fil des communications présentées, apparaît un personnage dont la force de conviction, l'énergie, les principes et les modes d'action peuvent à bien des égards guider, encore aujourd'hui, responsables civils et militaires, amenés à gérer une situation de crise. Le lieutenant-colonel Rémy Porte, co-directeur de cet ouvrage, est notre invité aujourd'hui. Bonjour colonel.
Bonjour.
Nous sommes heureux de vous accueillir une nouvelle fois au micro de Canal Académie. Je rappelle que vous êtes historien, professeur à l'école militaire. Vous étiez venu nous présenter votre ouvrage sur les opérations de Haute-Silésie en 1920-1922, ainsi que le dictionnaire de la Grande Guerre que vous avez dirigé aux côtés de François Cochet. Et collaboration sans doute fructueuse, puisque vous assurez ensemble la publication donc, des actes de ce colloque sur Foch. Alors pouvez-vous, colonel, nous présenter rapidement ces deux journées de colloque? Quels en étaient les enjeux et les intervenants?
Pour répondre à la fois de façon très précise et élargir votre question, j'évoquerai 3 points. Les enjeux, depuis très longtemps, il n'y avait pas eu de colloque d'ampleur, de colloque international sur l'un des plus grands chefs militaires du début du XXe siècle en France, le maréchal Foch, et il paraissait important de faire à la fois un point de l'historiographie et un point d'avancement des dernières recherches en la matière. Et pour ce faire, nous avons souhaité donner 2 orientations à l'organisation même du colloque. D'une part, l'ouvrir très largement à l'international. De mémoire, 9 pays différents étaient représentés parmi les anciens belligérants, jusqu'à l'Australie. Et d'autre part, essayer de parvenir à un équilibre aussi proche que possible du 50-50% entre officiers historiens d'une part et professeurs d'université d'autre part, considérant que les expériences et les approches des uns et des autres étaient en la matière tout à fait complémentaires.
Alors finalement, quels étaient les principaux axes de réflexion retenus?
Alors il s'agissait d'une part de dégager, que dis-je, la silhouette, la statue du commandeur pratiquement, la statue de Foch, de sa gangue mémorielle, de se rapprocher autant que possible de la réalité. Qu'a été la carrière de Foch? Quels étaient ses écrits, leur pertinence, leur éventuelle utilité aujourd'hui, comme vous l'évoquiez tout à l'heure? Et une fois de plus, de replacer cette action dans un cadre nécessairement international, puisqu'il est le premier commandant en chef d'armée alliée en Europe, et il a vraisemblablement été le seul officier général français à commander à la fois des troupes britanniques et américaines, ce qui est quand même exceptionnel.
Alors revenons, si vous le voulez bien, à l'élaboration de la pensée de Foch. Quelles sont les références qui alimentent sa réflexion? Dans sa communication, André Martel insiste sur l'aspect produit de son temps. Était-ce vraiment important?
Tout à fait. À la différence de beaucoup de ses homologues, de ses camarades, Foch, officier, jeune officier ou officier supérieur, ne sert jamais outre-mer, ne participe à aucun moment à la conquête coloniale, à la différence d'un Joffre, évidemment d'un Gallieni, d'un Mangin, etc. Joffre est donc un officier exclusivement métropolitain qui fait un véritable tour de France des garnisons de régiments d'artillerie, puisqu'il est artilleur, et qui réfléchit sur la guerre en étant lui-même en temps de paix, en vivant en paix. Et il va élaborer sa réflexion à partir de son expérience personnelle en régiment et à partir de très nombreuses, d'innombrables lectures de classiques de l'art de la guerre qu'il va passer au filtre de la critique au fil des conflits récents, les plus récents, fin du 19e essentiellement, globalement de la guerre de sécession à la guerre russo-japonaise. Et il appuie donc cette réflexion, cette analyse critique sur les expériences historiques connues par les armées françaises, pour une part les armées de l'Ancien Régime, assez largement les armées du Consulat de l'Empire, et également, ce qui est important, puisqu'il est un officier de son temps, la guerre de 1870-71.
Qui est très présente dans sa pensée quand même.
Alors, qui est très présente dans sa pensée, dans son souvenir, là aussi, comme pour beaucoup d'officiers de sa génération. Je recite les noms de tout à l'heure, un Gallieni, un Joffre, ce sont des gens qui ont été marqués par cette guerre de 1870. Alors, Foch lui-même ne participe pas directement au combat, il est encore étudiant en 1870, il s'engage, mais le temps de suivre sa formation initiale, la guerre se termine. Il n'est donc pas directement engagé dans les combats, mais c'est quelque chose qu'il a vécu, et il était à Metz, et il a vu les Allemands défiler dans Metz occupé.
Alors, pouvez-vous nous donner les grandes lignes de la pensée de Foch ?
On pourrait relever de très nombreux points. Ses deux ouvrages les plus connus sont « Des principes de la guerre » et « De la conduite de la bataille ». Et il faut entendre « Des principes de la guerre » au sens de « Au sujet des principes de la guerre ». On en retient généralement trois, mais si on le lit attentivement, on peut en relever 6, 8, 9. Sur quoi repose-t-il ? À la fois, la conviction profonde enracinée dans l'esprit de Foch qu'il est indispensable de se préparer intensément dès le temps de paix. D'où sa formule « Apprenez à penser » que nous avions mis en sous-titre. Il compare la préparation intellectuelle à la guerre à la préparation physique. Et il dit à ses officiers « Tous les matins, vous faites du sport, vous faites de l'équitation. Mais tous les jours, vous devez lire. Tous les jours, vous devez réfléchir. Tous les jours, vous devez mûrir votre réflexion. » Et puis, il exige de ses officiers un véritable esprit de synthèse. Lorsque l'un de ses officiers stagiaires s'engage dans une réponse trop longue dont on n'aperçoit pas la conclusion, il s'empresse de le couper et de le remettre immédiatement sur les rails. Cet esprit vif-argent, il y a du radium dans cet homme, donc à la fois de la profondeur dans la réflexion, beaucoup d'analyse, et en même temps une espèce de sentiment d'urgence dans l'arrivée au résultat, dans l'atteinte du résultat. Alors, quels sont ces grands principes ? On connaît bien les principaux, la concentration des efforts, la liberté d'action du chef, etc. Il insiste, au-delà de ces points-là, je l'ai dit tout à l'heure, sur l'importance de la préparation dès le temps de paix. Il faut, dès avant le début d'un combat ou d'une guerre plutôt, être moralement et intellectuellement supérieur à l'encadrement ennemi potentiel. Et puis, il insiste absolument tout au long de ses écrits sur l'importance de la volonté, en développant en particulier cette notion de dernier quart d'heure. Sera vainqueur celui qui, dans le dernier quart d'heure de la guerre, n'a pas renoncé à vaincre. Celui qui veut absolument vaincre. Et sera vaincu celui qui accepte sa propre défaite. Et il établit là une pyramide qui est tout à fait conforme à la pyramide des grades. Le premier responsable est le général, commandant en chef, puis les généraux qui lui sont subordonnés, puis les états-majors, puis les officiers, puis la troupe. Et la première responsabilité morale revient au général commandant en chef qui doit impulser, qui doit rayonner en direction de ses subordonnés pour diffuser cette force, cette conviction morale.
La pensée de Foch est également connue pour être très offensive. Il avait un esprit offensif, il défendait ça.
Alors, c'est une vaste question que celle de la question de l'offensive avant la Première Guerre mondiale. Je crois qu'il faut, dès le premier mot, remettre tout de suite cet élément-là en perspective. Et tous les auteurs militaires du temps en conviennent, quelle que soit leur nationalité. Aucun pays n'engage jamais une armée en la mettant sur la défensive. Par nature, à partir d'un moment où un pays s'engage dans une guerre, où un gouvernement décide d'engager ses armées, c'est avec un esprit offensif. Ceci doit être posé au départ. Par contre, on a constaté le développement, mais à partir de 1911, 1912, et la diffusion dans le corps des officiers français de ce mythe de l'offensive dite à outrance, qui doit être systématique, qui doit être toujours favorisé. On est là, si je peux me permettre l'expression, dans une queue de trajectoire un petit peu déformée de la pensée de Foch. Foch n'est pas systématiquement partisan de l'offensive. Offensive ou défensive, ceci doit s'analyser en fonction des circonstances du moment sur le champ de bataille, sur le théâtre d'action concerné. Évidemment, si on veut prendre l'ascendant sur l'adversaire, il faut être offensif. Mais localement, les conditions justifient parfaitement que l'on adopte, au moins provisoirement peut-être, une posture défensive. En résumé, Foch est éminemment favorable à une posture stratégique offensive. C'est-à-dire que la direction générale de la guerre doit tendre vers l'offensive, mais les engagements au contact peuvent être défensifs ou offensifs en fonction du rapport de force sur le terrain.
Comme il le montrera d'ailleurs au cours de la Première Guerre mondiale. Donc en août 1914, Foch devient commandant du 20e corps, puis de la 9e armée en septembre. Il passe enfin de la théorie à la pratique. Son expérience sur le terrain fait-elle évoluer sa pensée militaire ?
Alors je vais vous faire une réponse en demi-teinte. Fondamentalement, non. En pratique et à la marge, oui. Fondamentalement, non, car les quelques principes qu'il identifie, en particulier dans son ouvrage « Les principes de la guerre », restent parfaitement applicables. Et c'est en expliquant ses résultats et ses succès par la mise en œuvre de ces quelques principes qu'il fait le lien entre théorie et pratique. L'exemple le plus fameux en étant les combats des marais de Saint-Gond, de Mondement, au moment de la bataille de la Marne. Mais c'est pour Foch une bataille défensive. C'est une victoire défensive face à la 3e armée allemande de l'armée saxonne qui attaque dans ce secteur-là. Donc, le rapport entre la théorie et la pratique se fait avec relativement d'aisance et avec une immense souplesse d'adaptation, car Foch est aussi, et peut-être d'abord, un pragmatique. En fonction du rapport de force avec l'ennemi, de la situation locale, il adapte localement son dispositif et il le réadapte très vite. Dans la même journée, il peut très bien réadapter ses unités, déployer ses régiments, faire bouger l'un, rappeler l'autre, 2 à 3 reprises dans la journée. On en retrouve la trace en 1915 en Artois, où on est là dans une bataille offensive, mais où il va, alors qu'on lui reproche d'avoir dit en 1910 que l'aviation c'était bon pour le sport, etc. Donc au printemps 1915 en Artois, il va très rapidement développer une aviation qui sera la première du front, avec tous ses services annexes, services de météorologie, services techniques, etc., de façon à faire de l'arme aérienne une véritable composante de ses armées qu'il peut utiliser pour la reconnaissance, pour le renseignement, pour l'offensive, pour le bombardement, et lui donne la plus large palette possible d'emplois avant même que ces emplois soient rationalisés, formalisés dans des directives de commandement.
À vous écouter, colonel, on découvre une facette de Foch qui est, je dirais, l'adaptabilité. On a souvent l'impression d'un personnage un peu figé. Donc, à vous écouter, on voit vraiment quelqu'un qui s'adapte, mais a-t-il intégré aussi les nouvelles formes de la guerre ?
Alors, je suppose, quand vous évoquez de nouvelles formes de la guerre sur la période 1914-1916, qui est celle durant laquelle il exerce des commandements au front, il s'agit de la part prise par l'artillerie, par exemple, toutes les formes liées à la guerre de position, à la défense ou au franchissement de positions défensives, et tout ce qui a trait à la motorisation et à l'aviation. L'aviation, je viens de vous donner l'exemple, et la motorisation, il en est exactement de même. Lors des offensives de 1915, on constate le premier grand palier de développement du service automobile des armées. Et c'est Foch qui, en tant que commandant du groupe des armées du Nord, les utilise massivement le premier. Pour ce qui est des positions défensives et de l'attaque des positions défensives, comme beaucoup d'officiers français, mais aussi alliés ou ennemis de cette époque, il y a une phase d'adaptation. Toutes les armées se sont engagées en 1914 en ayant comme élément de référence que ce qu'on appelle les armées en campagne, c'est-à-dire celles qui manœuvrent sur le terrain, bougent, se déplacent. Et avoir des fronts figés, des fronts fixes, avec les lignes défensives continues, n'est pas dans l'esprit des hommes de ce temps-là. L'adaptation de Foch se fait au premier semestre 1915. Et dès la fin du premier semestre 1915, il pose un certain nombre de règles pour économiser, entre guillemets, la troupe, pour ne pas envoyer tête baissée dans les lignes ennemies des fantassins, mais pour développer les préparations d'artillerie et en particulier exiger d'abord la livraison de pièces qui n'existent pas encore, puis l'emploi systématique et massif d'artillerie lourde. Donc oui, il s'adapte, mais il s'adapte avec les contraintes technologiques et industrielles du temps. Pour pouvoir produire des pièces d'artillerie et les livrer aux armées, il faut au moins 6 mois. Donc les premiers enseignements des batailles de l'Isère en décembre 1914 et les premiers enseignements de l'Artois au printemps 1915 permettent progressivement, à partir de l'été 1915, de faire évoluer et d'adapter les dotations en nouveau matériel.
En 1916, Foch va être disgracié ou mis à l'écart, je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, faute de résultats. Qu'en pensez-vous et qu'en était-il vraiment ?
Alors on a effectivement beaucoup parlé à cette époque, à la fin de l'année 1916, d'une disgrâce de Foch. Elle est en partie réelle, hein, il ne faut pas se leurrer. Mais une fois de plus, il faut bien le remettre dans le contexte de son époque et dans le contexte plus global de changements importants dans pratiquement tous les hauts commandements engagés dans la guerre. Du côté allemand, fin août 1916, Hindenburg remplace Falkenhayn. Du côté russe, le grand-duc Nicolas a été relevé et c'est le tsar qui assure le commandement suprême des armées. Du côté britannique, French a été relevé déjà et c'est Haig qui assure le commandement. Il y a donc, par la volonté des autorités politiques, qui constatent une lassitude de la population, qui constatent l'absence de résultats significatifs, chez pratiquement tous les belligérants, une volonté de changer le haut commandement. Foch est une des victimes de ces déplacements, de ces mutations, comme le sera quelques jours après lui Joffre, qui est également relevé de son commandement en décembre 1916.
Vous abordez là un thème qui a été traité par le général Bach pendant le colloque, c'est en effet la question de l'imbrication de la politique et du militaire au cours de cette période, et dans le cas de Foch, est-ce qu'on peut dire que sa carrière a été au début ralentie à cause de la politique et après, à certains moments, au contraire, favorisée grâce à la politique ?
Alors, nous sommes dans une époque où la quasi-totalité, je dirais, des principaux officiers généraux, ceux qui exercent un commandement élevé, effectif, sont en lien, en relation naturelle avec l'autorité politique. Et je crois qu'il ne faut ni le regretter, ni en douter. À partir du moment où un général exerce de telles responsabilités, il est normal qu'il soit en relation directe avec l'autorité gouvernementale. Et nous sommes sous la Troisième République, où le Parlement est hégémonique, et il est donc naturel qu'il soit également en relation avec un certain nombre de parlementaires. Ceci étant posé, la carrière de Foch présente deux aspects de ce point de vue, comme vous le dites très justement. Dans un premier temps, c'est un officier catholique qui ne cache pas sa foi. Comme le disait un certain nombre de rapports, y compris préfectoraux, qu'on trouve toujours dans son dossier individuel, hein, aux archives de Vincennes, c'est un officier qui va à la messe. Et au début du XXe siècle, on sait bien qu'avec l'affaire des fiches, par exemple, puis les lois de séparation de l'Église et de l'État, tout ce qui a trait à l'inventaire des biens du clergé, l'armée française, comme d'autres corps, mais l'armée française en particulier, a été secouée par des turbulences politiques qui venaient nuire à son fonctionnement. Et Foch, comme d'autres officiers identifiés comme catholiques, pratiquants, a vu son avancement retardé de, selon les estimations, entre 3 et 5 ans. Pour être clair, en août 1914, il commande le 20e corps d'armée. C'est pratiquement un grade terminal pour lui. Si la guerre s'était terminée très rapidement, il n'aurait pas eu la fin de carrière que l'on a connue par la suite. Par contre, à l'issue de son temps de commandement à l'école supérieure de guerre, où il avait eu l'opportunité d'être reçu par Clémenceau. On connaît bien les anecdotes sur ce premier entretien entre Clémenceau et Foch. Sa détermination, la clarté de son raisonnement avaient déjà été remarquées. Et au fur et à mesure que la guerre avance, Foch ne se fait pas que des amis, loin de là, parce qu'il a un caractère entier. Mais par contre, en 1916-1917, sa volonté de poursuivre la lutte avec détermination. La détermination qu'il met à diffuser ses idées et à faire passer son message sont remarquées d'un certain nombre d'hommes politiques, et en particulier, on le sait bien, de Clémenceau, qui accède à la présidence du Conseil à la fin de l'automne 1917. Les deux hommes n'appartiennent pas du tout à la même famille politique ou idéologique, mais par contre, sur cette question particulière de la poursuite de la guerre pour parvenir à la victoire, ils vont totalement se retrouver. Une alliance de circonstances peut-être qui ne survivra pas à l'armistice de 1918, mais pendant la fin de l'année 1917 jusqu'en novembre 1918, pendant un peu plus d'un an, les deux hommes seront en total accord sur ce point-là.
Merci pour ces éclaircissements. Je vous propose maintenant de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour aborder Foch, commandant en chef interallié.
Découvrez, les académiciens racontent l'histoire.
Canal Académie vous propose des lectures extraites d'ouvrages rédigés par des académiciens historiens du XVIIe siècle à nos jours.
Quatre extraits sur un même personnage ou sur un même événement.
Quatre regards, quatre styles, quatre points de vue différents.
Le 14 mai 1610, comme le carrosse de Henri IV passait rue de la Ferronnerie, un homme sauta sur le marchepied et perça d'un coup de couteau la horte du roi qui lisait une lettre. Il mourut sur le coup.
Le champ de bataille inspirait le Béarnais. Sa vaillance était son génie. Il avait eu toujours besoin de plaire à ceux qui l'entouraient, de voir des visages gais.
Écoutez l'histoire de France racontée par les académiciens.
Merci d'être toujours à l'écoute de Canal Academy. Nous sommes en compagnie du lieutenant-colonel Rémy Porte, venu nous présenter les actes du colloque Foch apprenait à penser, publié aux éditions Soteca. Je vous propose donc maintenant d'évoquer Foch, commandant en chef interallié. Quelles sont ses relations avec ses homologues des autres nations alliées ?
Alors, ces relations, quoi qu'il ait pu être écrit par la suite, on sait très bien que les témoignages, les mémoires, les souvenirs ultérieurement publiés des différents acteurs enjolivent un petit peu la réalité du moment, ne serait-ce qu'au regard de la victoire acquise à l'automne 1918. Ses relations avec les autres commandants en chef alliés sont d'abord par nature conflictuelles. La création d'un commandement en chef interallié est difficile. L'accouchement est lent, long, difficile. Il s'étend sur pratiquement le premier semestre 1918 à travers 3 voire 4 réunions entre Français et Britanniques essentiellement. Pourquoi est-ce que ces relations sont difficiles ? Tout simplement parce que, en particulier, Pétain pour l'armée française et Haig pour l'armée britannique sont commandants en chef de leur armée nationale et, de ce fait, relèvent directement de leur propre gouvernement. Il est intellectuellement compréhensible que Clemenceau et Lloyd George, son homologue britannique, aient souhaité mieux coordonner l'action des différentes armées sur le front occidental et surtout compenser, grâce à cette coordination, l'absence de réserve, la crise des effectifs, le manque de matériel. Et en mettant hommes et matériel dans une certaine mesure en commun, il devenait possible d'utiliser des Britanniques ou des Américains sur un secteur du front français, des Français ou des Américains sur un secteur du front britannique, des matériels de l'une ou l'autre des nations sur n'importe quel autre secteur du front, etc. Politiquement et stratégiquement, la chose se comprend. Pour Pétain, qui reste dans une analyse franco-française de la guerre, naturellement. La priorité face aux offensives allemandes du printemps 1918, c'est de protéger Paris. Pour Haig, qui reste dans une analyse anglo-britannique de la guerre, la priorité pour les troupes britanniques, c'est de protéger l'accès à la Manche et les ports de la Manche face à un retour offensif des Allemands. Et le risque est que les Britanniques se replient vers le nord et le nord-ouest, que les Français se replient face à l'offensive allemande vers l'ouest-sud-ouest pour protéger Paris et que se crée entre les deux principales armées alliées une ouverture béante par laquelle pourraient s'infiltrer, s'engager les troupes allemandes. La première mission de Foch, le premier rôle qui lui est confié, est de garantir la cohésion de cette jointure entre Français et Britanniques autour d'Amiens et d'assurer, autant que faire se peut, l'inviolabilité du front allié devant Amiens. Cette victoire défensive, une nouvelle fois obtenue, les réactions de juillet 1918 aux dernières offensives allemandes, la deuxième bataille de la Marne, forêt de Villers-Cotterêts, etc., étant également engagées, il revient à Foch qui a pu asseoir entre mai et juillet son autorité sur Haig et Pétain, qui a su jouer assez habilement de l'arrivée de Pershing, commandant les troupes américaines dans le dispositif allié. Il revient à Foch d'engager ces 3 principales armées alliées. Il y aura une petite différence avec l'armée belge, un différent constitutionnel qui sera réglé à l'automne, de les engager dans la contre-offensive. Et là, il peut désormais disposer de la réserve générale interalliée et des réserves de matériel, réserves d'aviation, réserves automobiles, réserves d'artillerie lourde, dont il dispose. Et là où il souhaite élargir son offensive, il fait mettre en place les matériels. C'est-à-dire que les matériels stratégiques et les réserves échappe au commandement direct des commandants en chef nationaux, ce qui lui permet d'asseoir son autorité.
En effet, il a réussi dans cette mission, au-delà de toute espérance presque.
Totalement. Par comparaison, un peu rapide, parce que le temps est compté, mais alors que Hindenburg et Ludendorff, du côté allemand, procèdent par coups de boutoir successifs en des endroits différents du front, globalement, pour synthétiser, Foch engage ses troupes globalement autour de la même grande zone, mais en élargissant progressivement, offensive par offensive, la dite zone. Et donc, il n'a pas la contrainte de basculer des forces importantes d'un secteur à l'autre du front. Dans une même large zone, il fait affluer les hommes et les matériels dont il a besoin.
Autre aspect très intéressant étudié par le colloque, c'est la vision du personnage de Foch à l'étranger. Et les écarts sont bien sûr importants. En lisant le lieutenant-colonel Hoffmann, on est frappé du peu d'importance que les Allemands ont accordée au maréchal Foch.
Alors c'est tout à fait surprenant. Même pendant que Foch exerce la plénitude de son commandement au deuxième semestre 1918, les Allemands s'intéressent très très peu au chef ennemi. Et on peut s'étonner de ce qu'ils ne s'interrogent pas davantage sur les fondements de la pensée, les principes auxquels se réfère le chef de leur ennemi sur le front occidental.
Du côté américain, c'est pas du tout la même réaction. Ils ont l'air même un peu assez fascinés par Foch.
Alors, les Américains emboîtent, si je peux me permettre l'expression, emboîtent immédiatement le pas à Foch, à la fois parce que cette doctrine de l'offensive stratégique, cette volonté d'aller toujours de l'avant de Foch correspond bien au tempérament des Américains et des soldats américains et à leur culture profonde, mais également parce que, entre guillemets, et avec beaucoup de précautions, tenter d'utiliser Foch ou faire référence à Foch permet aussi d'éviter de faire référence à d'autres. Et se parer, se couvrir de la réputation de Foch leur donne une crédibilité qu'ils n'auraient peut-être pas eue sinon. Et dans ce cadre-là, la pensée de Foch va être, avec un peu des hauts et des bas, mais va être globalement, très largement enseignée dans les académies militaires américaines et à l'école de guerre américaine pendant l'entre-deux-guerres.
Mais au-delà de tout ça, Foch possédait une réelle capacité d'influence. On sent, dans une des interventions, on sent un Churchill d'ailleurs, assez fasciné par Foch.
C'est un homme de conviction, c'est un homme de volonté, et c'est un homme qui n'hésite pas à revenir, avec parfois une certaine vivacité, sur un sujet lorsqu'il a le sentiment que son interlocuteur n'est pas convaincu. J'en donnais également un exemple dans ses relations avec Haig et Pétain, où il utilise à la fois la courtoisie de bon ton qui sied entre personnes de cette importance, mais il sait aussi jouer de l'autorité que lui donne son élévation au maréchalat pour imposer des ordres. Il sait aussi jouer en contournant un obstacle pour faire convaincre son interlocuteur par de tierces personnes, par des relais. Il sait aussi jouer du réseau de ses fidèles, puisqu'il travaille avec un petit groupe d'officiers, on connaît bien Weygand, travaille avec un petit groupe d'officiers qui lui sont totalement dévoués. Bref, il sait utiliser tous les ressorts, toutes les cordes de cet arc qui vont lui permettre de convaincre. C'est avant tout un homme de conviction.
Donc en 1918, Foch est extrêmement populaire. L'année suivante, il est même élu à l'Académie française. Je suis heureuse de le mentionner au micro de Canal Académie. Et pourtant, on a l'impression que très vite, sa pensée va être mise à l'écart, disparaît un peu. Est-ce qu'il reste quelque chose de la pensée initiale de Foch aujourd'hui ?
Je peux vous faire là aussi une réponse en deux temps. Il va très rapidement perdre de son influence parce que l'autorité politique, et au premier rang Clémenceau en 1919, parce que l'autorité politique veut absolument reprendre la main, reprendre le contrôle de l'évolution générale, d'abord négociation des traités de paix, puis mise en œuvre des traités de paix. Et donc, on dit très explicitement à Foch, vous êtes responsable des clauses militaires que vous proposez, que vous élaborez, et dont, lorsque vous en serez mandaté, vous vérifierez l'application. Mais la prise de décision relève exclusivement du politique. Et là, il y a des réunions extrêmement orageuses entre Foch et Clémenceau. Foch protestant de ce que ses responsabilités, telles que lui les conçoit, lui donnent une autre place. Mais en fait, Clémenceau sera inflexible et le maréchal sera cantonné à son rôle, un peu rapidement dit, de conseiller militaire de l'autorité politique. Pendant les années 20, il conserve une influence générale, d'ensemble, mais qui ne se matérialise que très difficilement sur deux poèmes dont il fait un petit peu son cheval de bataille. C'est l'affaire de la rive gauche du Rhin à l'égard de l'Allemagne, d'une part, et puis l'alliance de revers et les questions polonaises. Là, à plusieurs reprises, il ne va pas hésiter à intervenir directement et, peu ou prou, mais dans le cadre du traité de paix qui a été signé en juin 1919, ses avis sont pris en compte ou peuvent être pris en compte. Par contre, dès la fin des années 1920, on constate une disparition extrêmement rapide de la pensée de Foch, enfin de l'influence de Foch telle qu'elle peut être identifiée. Tout simplement parce que cet homme de conviction, cet homme d'énergie, cet homme de volonté n'est plus dans l'air du temps de la société française des années 30, civile ou militaire d'ailleurs. Les événements de la Deuxième Guerre mondiale, alors il a un héritier militaire et intellectuel à l'époque qui est Weygand. et qui va traverser jusqu'en 1935 toute l'histoire militaire et diplomatique française. Weygand qu'on retrouve rappelé au service au printemps 1940. D'ailleurs, curieusement, il relève, après la percée allemande de Sedan en mai 1940, Gamelin, qui était le fils spirituel de Joffre. Donc le fils spirituel de Foch relève le fils spirituel de Joffre. L'histoire a des fois des clins d'œil qui peuvent être amusants. Mais la guerre change de nature, en particulier dans son ampleur, dans son caractère idéologique, dans le rôle des grandes unités de chars, les bombardements massifs, etc., etc. Et la guerre est essentiellement menée à l'américaine à partir de 43, 44, 45. Et donc à partir de 45, on peut considérer que dans son aspect pratique, mise en œuvre des forces armées, l'héritage de Foch a disparu. Je mets ceci entre parenthèses, parce qu'en réalité, si on en revient aux principes fondamentaux de Foch, je citais tout à l'heure la concentration des efforts, rechercher à tout prix pour le chef la liberté d'action, le renseignement sur l'ennemi, il est bien évident que ces principes sont d'autant plus pérennes qu'ils sont moins nombreux. Et en dehors du contexte, en s'extrapolant, en se dégageant du contexte d'une opération particulière ou d'une campagne particulière, la recherche de la concentration des efforts est toujours aujourd'hui une priorité du chef militaire.
Il y aurait donc un héritage de Foch dans le monde militaire aujourd'hui.
Alors, il y en a un à double titre. C'est d'une part une perception, une compréhension, une mise en œuvre moderne de ses principes fondateurs. Et puis, il y en a une autre, et qui est peut-être au moins aussi importante, et qu'il en est à la limite même plus militaire, qui est propre à tout dirigeant, à tout chef, dans un domaine ou dans un autre, qui est cette capacité d'analyse préalable qui se traduit par une prise de décision qui va devenir effective grâce à une volonté tout à fait hors du commun. Et la poursuite de l'objectif tel qu'on l'a défini prime tout. Et la manifestation de cette volonté, c'est quelque chose de très fauchien. Analyse du problème, compréhension du problème, élaboration d'une solution, et ensuite mise en œuvre de cette réponse.
Nous arrivons au terme de notre émission. Merci infiniment, colonel, d'être venu nous présenter Foch. Je précise aussi que vous publiez un ouvrage sur Falkenhayn, l'occasion à nouveau de se pencher sur le haut commandement de cette période. Je rappelle donc que les actes du colloque sont disponibles aux éditions Soteka sous le titre « Foch, apprenez à penser ». Au revoir.
Merci.